Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimon, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le Nutri Talk Gala, samedi 13 juin, à l'Élysée Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Nutri-Thérapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Merci à tous d'avoir choisi d'écouter Nutri Radio. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur NutriTV.fr. Vous allez pouvoir y retrouver des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts, ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. D'ailleurs, il y a une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et surtout rester à la pointe de la santé intégrative. Comme chaque lundi, nous sommes avec Docteur Jean-Paul Curté. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Ambline. C'est avec vous aujourd'hui qu'on va discuter de l'eau.
Exactement. Et je suis toute oui, j'ai envie d'apprendre moi aussi. Alors.
Donc, on a passé pas mal d'émissions, plus d'une dizaine sur les dégâts actuels. Et évidemment, il faut passer aux choses positives. Donc, depuis quelques émissions, vous l'avez remarqué, on est en train de regarder comment se protéger. Et donc, dans le premier volet, c'est réduire notre exposition à tous ces fardeaux toxiques. Donc, on avait vu la semaine dernière, avec Fabrice, différents moyens de respirer de l'air plus sain à l'intérieur, puisqu'on avait fait déjà il y a plus longtemps sur l'extérieur. Évidemment, le deuxième élément qui est vital pour nous tous, c'est évident, c'est l'eau. Donc, on avait vu que l'eau du robinet est polluée par d'innombrables molécules, le chlore et ses dérivés, qui peuvent donner même des cancers de la vessie, l'aluminium, le plomb, le cuivre, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les PFAS, les particules de plastique, les médicaments, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir des choses pour se protéger, de réduire les apports dans tous ces éléments indésirables. Mmh. Alors déjà, une première chose assez simple, c'est que si votre logement est ancien, demandez à vérifier qu'il n'y a pas de canalisation en plomb. D'ailleurs, maintenant, si on doit louer un logement ou le vendre, il y a besoin d'un expert qui fait un certificat, vous savez, pour l'amiante, pour les fuites thermiques, mais aussi pour le plomb. Alors l'État, lui, les élimine sur les réseaux, le plomb, mais pas chez les particuliers. Donc si le logement est ancien, il peut y avoir encore des canalisations au plomb. Si vous êtes propriétaire, c'est à votre charge. Sinon, s'il y a une copropriété, il faut mettre ça sur le tapis à La Réunion.
À l'AG,
ouais. Et puis aussi, oui, oubliez, je vous écoute.
Oui, non, j'ai juste dit à l'AG, à l'Assemblée Générale.
Oui, voilà, tout à fait, toutes les copropriétés. Mm. Alors, beaucoup d'entre nous n'y vont pas, mais parfois, ça vaut le coup d'y aller. Il y a des choses à discuter importantes, déjà. Réduire les dépenses inutiles, et puis, par exemple, ce genre de problème qui, en fait, est, je crois, à ma connaissance, très rarement abordé dans ces réunions. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que les tuyaux en plomb. Par exemple, on avait vu les canalisations en plomb, en PVC, pardon. Alors, depuis les années 80, ils ont changé les techniques, donc il y a moins de problèmes, mais il reste 300 000 km sur les réseaux, paraît-il, des vieilles canalisations en PVC, donc d'avant les années 80, qui libèrent un gaz carcinogène, le chlorure de vinyle monomère. Et ça, c'est un chantier qui n'a pas encore été abordé par l'État. Voilà, donc ça, c'est un peu basique, quoi. Mais de toute façon, malheureusement, en plus, il y a tous ces éléments indésirables dans l'eau du robinet. Et pendant des années, on a proposé, vous savez, des filtres à charbon actif qui se fixent, se vissent.
Ah, c'est pas mal ça, ouais.
Sur le robinet de l'évier. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec la situation, ça ne suffit plus du tout. Vous vous rappelez que 11 millions de Français ont de l'eau non potable au robinet. Alors, avec des dérogations, les mairies se débrouillent pour ne pas être obligées de livrer de l'eau gratuite aux gens, mais en fait, la réalité n'est pas terrible, quoi. Donc, aujourd'hui, que faire? Eh bien, si le charbon actif ne suffit pas, il faut en fait des systèmes beaucoup plus sophistiqués, multiples, avec des céramiques, avec des systèmes anti-PFAS. Les PFAS, vous vous rappelez, c'est ces polluants éternels qui sont émis par des tas d'industries qui n'ont pas été monitorés suffisamment. Alors, les députés les ont interdits, mais par exemple, vous vous rappelez que les bus d'employés de Tefal, hein, qui font 1 million de poils par an, sont débarqués à l'Assemblée nationale enfin, pour obtenir, et ils l'ont obtenu, hein, une dérogation aussi pour leurs poils voilà, enfin, anti-adhésifs. Donc, si vous voulez, de toute façon, malheureusement, il y a eu tellement de relargage de ces molécules qu'elles sont partout. Et donc, il faut en fait, des filtres spéciaux qui sont nouveaux. Moi, justement, j'ai devant moi, là, je le vois d'ici, parce que je suis dans ma cuisine, à côté de l'évier, un système de filtration par gravitation. Alors, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente par des bidons en inox, hein, de 2 étages. L'étage supérieur, on peut y mettre plusieurs litres d'eau. Avec, moi, ce que j'ai fait installer un robinet douchette, vous savez, à l'évier, qu'on peut tirer. Comme ça, tous les soirs, je remplis mon bidon du haut. Et puis, il y a les filtres dans cet étage qui vont... Donc, les nouveaux filtres anti-PFAS sont beaucoup plus gros. Ça prend un peu plus de place. Mais pendant la nuit, eh ben, tout ça percole à l'étage inférieur. Et le lendemain, ben, vous avez pour boire, pour faire votre thé, vos soupes, cuire laver et cuire les aliments, on a de l'eau propre, voilà, avec un petit robinet.
Mais si on a du calcaire aussi dans les robinets, comment on fait?
Alors, le calcaire, bon, ça, c'est un vieux truc. Hein. Vous savez que c'est pas bon pour les appareils ménagers, la vaisselle, la lave-linge, les tuyaux, les radiateurs, que ça bouche, etc. Donc, on met des adoucisseurs d'eau. Alors, ça, c'est de bonne guerre. Mais il faudrait, quand on installe ce système, court-circuiter le robinet de l'évier, justement, parce que on l'avait mentionné, hein, l'eau riche en calcaire, et d'ailleurs souvent en magnésium, est protectrice de la santé cardiovasculaire. Ça diminue l'hypertension, les arythmies, la mort subite, etc. On a des centaines et des centaines d'études, hein, qui montrent que les gens qui ont une eau comme ça, riche en calcaire et en magnésium au robinet, sont protégés d'une certaine manière par tous ces problèmes. Donc ce serait un peu bête, hein, d'enlever ces éléments protecteurs, par contre.
Et concernant l'eau en bouteille, est-ce que vous conseillez?
Alors, ben, l'eau en bouteille, d'abord, on sait que ça pollue l'environnement. Bon, c'est une vraie calamité. Et on évolue peu à peu vers plus de plastique que de poissons dans l'eau de mer. Mais, en fait, dans toutes les eaux. Hein, toutes les eaux. Et donc, le problème, c'est que même les nappes phréatiques, où elles se concentrent, les plus grandes marques d'eau en bouteille, hein, la France est célèbre pas seulement pour son vin, mais pour ses huîtres, pour ses parfums, pour sa mode et tout ce qu'on veut, mais aussi pour l'eau. On a des grandes boîtes que tout le monde connaît, hein, qui exportent cette eau dans le monde entier. Bon, malheureusement, les études ne sont pas bonnes du tout, hein, parce que, bah oui, même ces manias de l'eau, ils achètent des terrains autour de leur site de captage pour réduire la pollution de leur nappe, mais malheureusement, ça ne marche pas. Et vous avez vu qu'il y a eu des tas de scandales, pour ne pas le nommer, Nestlé qui a été découvert faire des filtrations totalement illégales sur son eau en bouteille. En fait, voilà, ils vendaient de l'eau normale, entre guillemets, à la place de mes traités qui coûtaient 100 fois moins cher.
Bah oui, bon. C'est beaucoup plus rentable. Hein.
oui, mais bon, 60 millions de consommateurs ont fait un dossier là-dessus, c'est assez hallucinant. Bah, beaucoup de pesticides, de produits totalement indésirables sont dans ces bouteilles qu'on paye plus cher. Et même pas, si c'est à l'état de trace, c'est pas du tout normal, quoi.
Bien sûr, ouais, ouais.
Voilà.
Et concernant l'eau...
Évidemment, après, l'autre problème, c'est le contenant, hein, c'est-à-dire le plastique lui-même, qui relargue des particules de plastique, hein, surtout sous l'influence de la lumière, qui décompose le plastique. Et donc, on se retrouve avec des microparticules de plastique de 100 à 1000 par litre de ces eaux. mais aussi de toute autre boisson en bouteille plastique. Hein. Mais alors, plus grave, ce qu'on a découvert récemment, parce que, en fait, on ne savait pas. Alors, ce qui est bien connu, hein, ce qu'on ne sait pas n'existe pas. Mm-hmm. Le problème, c'est que, voilà, avec des nouvelles techniques, on a découvert les nanoparticules, encore beaucoup plus petites que les micros. Et malheureusement, c'est les plus toxiques parce que petites, elles passent très bien dans le sang et elles se répartissent partout, y compris dans le cerveau. Et là, attendez, il y en a de 100 à 240 000 par litre.
Ah
c'est
oui.
C'est une autre histoire.
Et à partir de combien c'est vraiment dangereux ?
Ben, c'est dangereux de toute façon parce que c'est des particules qui doivent être dans notre corps. Hein. Donc, si vous voulez, le simple fait d'avoir ce plastique est inflammatoire. L'inflammation, c'est aujourd'hui derrière pratiquement toutes les pathologies, hein, du surpoids, la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment pas bon. Alors après, elle véhicule des métaux lourds. Il y a des plastifiants, des colorants, des tas de cochonneries. Et même, parfois, des virus hein, de la famille du choléra qui sont sur ces particules. Oui, c'est une situation qui est un peu, plus que délicate, on va dire.
On fait une petite pause et on revient juste
Allez.
Après ça.
Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutri-Thérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Et comme chaque lundi de 10h à 11h sur Nutri Radio, nous retrouvons Jean-Paul Curtet, notre docteur aujourd'hui. Jean-Paul, vous avez décidé de parler de l'eau. Alors, on parlait des bouteilles en plastique, etc. Concernant les bouteilles en verre, alors c'est vrai que c'est plus difficile à en trouver et puis ça coûte un peu plus cher, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais... voilà, si on reçoit des invités, d'ailleurs quand on va au restaurant en général, hein, l'eau est servie en bouteille de verre.
C'est vrai.
C'est plus chic et puis voilà, en fait c'est meilleur pour nous. Bon, ça c'est clair. Alors forcément, elles ne sont pas exemptes de totalement pollution, mais c'est déjà nettement mieux hein, que le plastique. Bon après, chez soi, c'est sympa d'en avoir, mais de toute façon on a besoin aussi d'eau propre pour laver les fruits, les légumes... On ne va pas faire ça avec une eau qu'on a payée très cher pour faire des boissons chaudes, des soupes, cuire des légumes secs. Bon, d'où c'est l'intérêt de ces filtres à gravitation dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Ça permet de faire tout ça sans avoir à acheter, à porter toutes ces bouteilles en verre.
Et est-ce que ça vaut le... Si... C'est pareil aussi pour les autres boissons, notamment les jus de fruits, etc. Est-ce que...
Bah oui.
Ouais.
Bah oui, si vous allez dans une grande surface, hein, les jus de fruits, la plupart des boissons sont dans du plastique. Bon, on comprend que les industriels ne le savaient pas au départ. Bon, maintenant, ils ne peuvent plus l'ignorer. C'est clair que c'est moins cher pour des tas de raisons, hein, le plastique que le verre. C'est plus léger au transport, ça ne casse pas. Donc, il y a des avantages, on le voit bien. Mais malheureusement... En médecine, ce qu'on fait, c'est qu'on pèse le rapport dit bénéfice-risque et le risque là, est devenu beaucoup trop important, quoi. Surtout que ça se répète énormément. Donc tout ce qui est jus de fruits, alors on verra pourquoi c'est mieux de consommer des smoothies avec les fibres que le jus de fruits, les laits végétaux. Bon, c'est le verre. Il y a aussi une autre solution qui est pas mal, c'est les cartons style Tetra Pak, par exemple pour les laits végétaux. Sont fortement conseillés parce que c'est le même problème qu'avec l'eau pour le microplastique et les nanoplastiques.
D'accord. Et quelles boissons alors conseillées ?
Alors, on va distinguer les boissons chaudes, les boissons froides. Pour les boissons chaudes, les gens sont souvent addicts au café.
C'est
vrai.
Vraie
religion, en fait, la machine à café.
Oui.
Surtout que maintenant, avec les cafés capsules, bon, on va en parler, c'est les pires. C'est devenu... Smart, on a l'impression que c'est plus développé, c'est plus sophistiqué, c'est nouveau.
C'est catastrophique dans quel sens ? C'est mauvais pour la santé ?
Oui, parce que le café en capsule libère des carcinogènes qu'on appelle des furanes, qui sont dans des quantités pas du tout négligeables.
Hein. Ah.
Bon, après, c'est hyper polluant sur l'environnement et ça nous revient d'une autre façon. Bon.
Mm-hmm.
Mais de toute façon, il faut quand même, c'est une question très importante, ça j'espère un jour avoir la possibilité d'écrire un livre là-dessus, sur la discussion thé ou café. Hein. Parce que, bon, le café, c'est vrai, ça dynamise. En plus, il y a des bonnes molécules dans le café. Il y a des antioxydants. Il y a même des études qui montrent que le café, ça réduit le diabète. Mais malheureusement, ça augmente le glaucome et sa fréquence et sa sévérité. Ça bloque l'absorption des vitamines B. Ça fait uriner du magnésium et du calcium, etc., etc. Donc, si vous voulez, voilà. Le café, si on aime bien le café, autant en faire une boisson plaisir. Hein, se payer des très bons cafés avec un bel arôme, voilà, de temps en temps. C'est, une boisson plaisir. Mais la boisson santé à consommer au quotidien, c'est de toute évidence plus le thé. Alors, le thé noir, ça dynamise plus le matin. Il se trouve que ça a aussi des effets antihypertenseurs qu'on ne connaissait pas, mais qui ont été bien documentés par les études. Mais évidemment, le thé vert est encore plus intéressant parce que 10 fois plus riche en polyphénol, des molécules extrêmement protectrices, dont on va reparler pour les autres boissons. Donc, chaque fois qu'on peut, c'est pour ces boissons, privilégier des boissons riches en polyphénol, c'est vraiment un bon investissement pour son futur, même son présent. Alors bon, après, les gens, si, vous savez, quand on répète quelque chose, qu'il soit bon ou mauvais, on l'endorphinise, hein, c'est-à-dire qu'on sécrète des opioïdes endogènes, et c'est le simple fait de répéter quelque chose, ça le rend familier, et on devient addict, en fait, on est en quelque sorte accro-héroïnomane à nos habitudes, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Mm-hmm.
Donc, si vous voulez, on a documenté ça par des études, hein, il faut avoir une relation personnelle avec sa boisson, il y a des boutiques de thé spécialisées, il y a des centaines de thés verts différents, c'est comme les crus du vin rouge, faire l'expérience de ce qui nous plaît, et puis au bout de 3 semaines, même si on n'a pas l'habitude et qu'on est accro au café, eh ben, on se rend compte qu'on va l'endorphiniser au bout de 3 semaines, il y a une technique qui s'appelle ma propre campagne de pub qui permet de faire ça. On met sa meilleure photo de vacances à côté, un jingle avec sa musique favorite qui donne le frisson, et on se fait sa propre pub, quoi. Et au bout de 3 semaines, bah, ça y est, c'est endorphinisé, et on n'a en général pas envie de revenir en arrière, bon, sauf exception, qu'on a besoin d'un petit coup de fouet.
De temps en temps.
De toute façon, le coup de fouet de caféine, en fait, dure 1h30. Donc après, c'est pour ça que les gens sont obligés de retourner à la machine à café, hein, parce que voilà, ça ne dure pas longtemps. Il y a des produits en nutrithérapie qu'on appelle par exemple la tyrosine. C'est un précurseur des neurotransmetteurs de l'attention, de la concentration, de la combativité, la noradrénaline, la dopamine, etc., qui durent, eux, toute la journée et qui n'ont pas ces effets négatifs de la caféine.
Et tout à l'heure, vous parlez des smoothies. Vous préférez donc les smoothies aux jus de fruits, c'est ça?
Oui, parce que dans les jus de fruits, si vous voyez, ils ont été filtrés, il n'y a plus de fibres. Or, les fibres, c'est hyper important pour notre flore digestive. Ça, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Donc, c'est évidemment un plus. Alors, malheureusement, bon, sur le marché, quand on va acheter des smoothies, bah, ils sont toujours dans du plastique ou presque. Mais bon, ces smoothies, on peut les faire facilement chez soi, hein, aussi.
Vous conseillez
après, ce qu'il y a à fuir, déjà. Oui, le premier truc à fuir, c'est les fameux nectars. Hein, parce que nectar, ça veut dire très enrichi en sucre ajouté, quoi. Donc déjà, jus de fruits sans sucre ajouté. Et smoothie par rapport au jus de fruits. Bon, et après, jus de fruits riche en polyphénol. Hein, par exemple, maintenant, tout le monde connaît, hein, le jus de grenade, jus de myrtille, jus de betterave, moi je les mélange un peu tous les trois parce que la betterave ça a un goût un peu de terre, la grenade c'est un peu astringent, donc mélanger c'est pas mal. Chacun peut faire sa petite recette, son petit cocktail, c'est ce que je prends le matin, c'est bien dynamisant en plus pour mélanger mes poudres. Non, ça, c'est très sympa ça.
Et concernant les sodas, par exemple, bon, pour pas les citer, mais Coca Zéro, etc., est-ce que pour nous?
Alors, les sodas, on en a partout. Je reviens du campus de Namur, là où je donnais un cours. Eh bien, on est dans une fac de médecine. J'ai regardé le distributeur, il n'y avait pas une seule bouteille d'eau. Il n'y avait que de ces sodas et des boissons dites énergétiques. C'est incroyable, quoi, dans une fac de médecine. Mais c'est pareil dans les hôpitaux, partout, quoi. Parce que je pense que, malheureusement, c'est des gérants qui ne connaissent rien à la santé, qui qui ont des contrats. Et ils sont partout. Vous ouvrez le mini-bar d'un hôtel,
c'est vrai.
Qu'il y a dedans. Hein. Parfois une bouteille de vin ou de bière, mais beaucoup d'abord, surtout des sodas. Quoi. Donc si vous voulez, c'est le problème, c'est qu'on est envahi hein, de produits qui ne sont pas bons pour notre santé, et les produits plus intéressants sont en général plus difficiles à atteindre. Il y a vraiment une révolution au niveau de la production, de la distribution à faire. Bon, vous avez vu que les Anglais, ils nous dépassent, là. Ils ne sont plus dans l'Europe, mais ils caracolent en avant dans la santé publique. Là, vous avez vu qu'ils ont interdit la pub pour les enfants sur la malbouffe et les sodas, tout ça, à la télé, sur Internet. Et ils ont aussi, par ailleurs, interdit la vente de cigarettes aux gens qui sont nés il y a moins de 15 ans, mais à vie. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent faire une génération sans tabac.
C'est bien. Ce serait bien que ça arrive en France.
Bien, voilà, de prendre exemple, oui. Parce que là, on est un peu retardataire, hein. Surtout que la France, par ailleurs, est la championne d'Europe des pesticides, mais les résultats sont là. Hein. On est les champions du monde du cancer du sein, les champions du monde du cancer de la prostate aux Antilles, où la chlordécone s'est rajoutée au problème. Il peut mieux faire. Les sodas, on a eu une grosse surprise, hein, parce que justement, les scientifiques ont testé des sodas zéro calorie, en se disant, ça ne peut pas être mauvais. Eh bien, malheureusement, si. Parce qu'ils sont aperçus que les buveurs de soda zéro calorie, ils faisaient plus de diabète. Et l'explication, on l'a eu après, hein, c'est que ça, les édulcorants, les additifs altèrent la flore digestive. Ça crée, vous rappelez, de l'inflammation. Ça altère le récepteur à l'insuline. Et voilà.
Oui, c'est tout bête. Pourtant, on nous dit que c'est zéro calorie.
Tant qu'on ne le savait pas, voilà.
Oui.
Il y a eu un marketing, on peut dire, c'est pas du greenwashing, c'est du healthwashing, on va dire, pour faire passer les zéro calories pour la santé. Mais bon, on avait déjà eu le même problème avec les produits light, vous vous rappelez?
Ah oui.
Les produits light, c'était des grandes vagues de promotion. Puis on s'est aperçu en fait que notre cerveau, hein, dans un petit sang qui s'appelle l'hypothalamus, il compte les calories. Donc si vous mangez des produits light, vous en mangez plus. Ce qui est très bien pour l'industrie, mais pas très bien pour le patient. Quoi. Donc de toute façon, ça ne marchait pas. Quoi.
Et donc vous privilégiez les bouteilles en verre, mais comment bien choisir la bouteille en verre?
Alors là, il y a en général le verre, c'est déjà nettement plus safe. Bon, il y a quelques petits gimmicks. On a eu une étude un peu surprenante sur la bière en bouteille de verre. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des microplastiques, mais apparemment ils viennent de la peinture des capsules qui sont éraflées. Mais sinon, non. Globalement, bon, heureusement, hein, le vin, la bière, le champagne sont toujours en verre. Encore que. On a vu du vin pas cher vendu en plastique. C'est quand même là, c'est anecdotique. Mais attention aussi que le vin, comme vous le savez maintenant, je pense que tout le monde s'en est aperçu, hein, c'est que le vin est parmi les boissons les plus riches en pesticides. On a vu l'augmentation des maladies de Parkinson chez les riverains des vignobles. Donc vin bio. Il y a une époque, hein, moi j'étais amateur de vin, bon j'en bois moins maintenant, mais où le vin bio, je ne me branchais pas du tout, je ne le trouvais pas très bon. Bon ben maintenant, depuis des années, ils ont fait des progrès considérables et on a des vins bio au contraire fantastiques, quoi, vraiment, même parfois meilleurs que les vins classiques. Quoi.
Très bien. Et les canettes, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors les canettes, c'est un autre problème. Hein. Attendez, vous avez sauté des choses, mais je reviendrai en arrière. Alors déjà les canettes, leur production, la production d'une canette en aluminium, je ne le savais pas, hein, génère le double de leur poids en gaz à effet de serre. Déjà, c'est pas très bon, mais enfin.
Oui.
Bon. Et par contre, engendre plus de l'équivalent de leur poids en résidus hautement toxiques, hein, nocifs pour l'environnement et la santé. Donc ça nous revient d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc si vous voulez bien, on va revenir sur le gras. Hein. Parce qu'il y a aussi, c'est pas vraiment de l'eau et une boisson, mais je pensais que ça allait dans le même sujet, c'est tout ce qui est huile, sauce, tout ce qui est gras, hein, doit toujours être en verre. Là, ça devrait être interdit de mettre du plastique pour emballer ces produits, parce que le plastique est soluble dans les graisses, et donc il migre de manière importante dans les produits. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être totalement interdit, de mettre des huiles et des sauces dans du plastique.
C'est vrai qu'on voit l'huile en plastique. Enfin, moi, j'en ai déjà vu plein.
Ah bah oui. Mais toujours la même raison. Hein. C'est plus léger, ça casse pas, c'est moins cher, etc., etc.
C'est vrai que la différence de prix est énorme. Ouais.
Oui. Enfin, chez nous, encore, l'huile d'olive est toujours en verre. Mais j'ai vu même en Espagne, dans le Maghreb, la plupart des bouteilles sont maintenant en plastique. Mais ça, je pense que voilà, les fabricants l'ignorent complètement, ils trouvent ça plus pratique pour eux. Mais c'est calamiteux, ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut une réglementation qui l'interdise, point final, quoi.
Et par exemple, si là j'ai envie de sortir de chez moi, je vais faire une séance de sport, qu'est-ce que j'emporte si je ne prends pas une bouteille en plastique ?
Maintenant, je pense que c'est de plus en plus connu, une gourde. Une gourde, ça permet de d'emmener dans sa promenade, au club de sport, au travail, dans sa voiture, les boissons qu'on souhaite. Et puis des thermos pour les boissons chaudes. Voilà, c'est très simple. Comme ça, ça économise en plus tout le plastique qui va finir dans l'environnement.
Oui, très bien. Très bien dit. Merci Jean-Paul Curté.
Oui, écoutez, on a fait à peu près le tour de la question. Écoutez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, à bientôt.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curté sur Nutri Radio.